Quelques habitants de Jérusalem disaient : N'est-ce pas celui qu'ils cherchent à tuer ? Le voici qui parle ouvertement et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment compris qu'il est le Christ ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est le Christ. Quand il vient, personne ne sait d'où il est. Alors Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria : Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu. Celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Parmi la foule, beaucoup mirent leur foi en lui. Ils disaient : Le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a produit ? Les pharisiens entendirent la foule murmurer à son sujet. Alors les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit : Je suis encore avec vous pour un peu de temps et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Là où moi je suis, vous, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent entre eux : « Où va-t-il se rendre pour que nous, nous ne le trouvions pas ? Va-t-il se rendre chez ceux qui sont dispersés parmi les Grecs et instruire les Grecs ? Que signifie cette parole qu'il a dite : « Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Là où moi je suis, vous, vous ne pouvez pas venir. »
Le 8 mars dernier, le vol MH370 de Malaysia Airlines disparaissait. Vous avez certainement entendu parler dans les nouvelles, avec 239 personnes à bord. Alors maintenant, on sait quelques éléments. Quelqu'un a neutralisé les systèmes de repérage. Mais pendant un bon moment, et il en reste encore beaucoup, il y a eu toutes sortes de questions qui ont été soulevées. J'en mentionne quelques-unes dans le journal Le Monde. Quelques thèses. L'avion a-t-il continué sa route ? Peut-il avoir été détourné ? L'avion peut-il avoir explosé en plein vol ? L'appareil a-t-il subi une défaillance technique ? La thèse du suicide du pilote, est-elle réaliste ? L'hypothèse d'une frappe d'un missile, est-elle crédible ? Et toutes les questions qui sont encore posées, comme dit. Le nombre de questions dit la perplexité qu'on a face à de telles situations. Et si on regarde notre passage, le passage que nous avons lu, il y a pas mal de questions. Jean nous plonge dans la perplexité quant à la personne de Jésus. Remarquez que dans ce texte, dans 11 versets, il y a 6 questions à son sujet, et encore plus dans le reste du chapitre. Des questions sur son origine, son identité, sa destinée, et des questions qui disent combien ils sont dans le flou quant à l'identité de cette personne qu'ils entendent, qu'ils écoutent. En particulier sur ses origines, sa destinée. Et on va prendre 2 questions, en particulier avec ça à l'esprit. Est-ce qu'on sait vraiment d'où il vient ? Est-ce qu'on sait vraiment où il va ? Malgré toutes les questions posées, on va aussi y relever qu'il y a un certain nombre de présupposés. C'est-à-dire, oui, il y a des questions qui sont posées, mais en même temps, on sent chez les auditeurs qu'il y a des convictions de leur côté. Et nous, nous avons peut-être des questions par rapport à Jésus. Vous avez peut-être des questions par rapport à Jésus. Est-ce que vous allez être prêt à mettre de côté certains présupposés par rapport à sa personne ? Ou est-ce que vous allez vous dire, moi Jésus, je connais. J'ai déjà entendu parler de Jésus. J'ai déjà eu ma dose. Ou alors, à partir de ce que je sais, j'arrive à vivre ma vie tranquillement. J'arrive à construire mes propres convictions. Et après tout, chacun doit faire sa propre, construire sa propre philosophie de vie. Il ne faut rien affirmer, rien imposer. Quant à Jésus, chacun doit se l'approprier à sa façon. Si on est attentif à ce texte, on va voir que Jésus veut nous déstabiliser, il veut nous interpeller et nous pousser à aller plus loin. Et où est-ce que ce passage devrait nous amener? Je l'espère en tout cas. Si on est à l'écoute, il va nous déstabiliser, mais c'est en vue d'une plus grande stabilité que Jésus nous déstabilise dans un premier temps. Il nous invite à un positionnement qui est incontournable par rapport à lui. Et il nous permettra, si on comprend correctement sa trajectoire, de goûter à une plus grande stabilité. Alors la première question, est-ce qu'on sait vraiment d'où il vient? C'est l'effervescence à Jérusalem pour une des fêtes les plus importantes, la fête des tabernacles, rappel de la providence de Dieu au temps de l'Exode. Et ce n'est pas la première fois que Jean nous parle de Jésus à Jérusalem dans le temple. Il avait déjà mentionné au chapitre 2 et au chapitre 5. Il avait déjà fait part de tensions à ce moment-là avec les auditeurs. Au chapitre 5, parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et cette menace de mort qu'on trouve dans notre passage, elle planait déjà. La perspective d'une arrestation aussi, on les a déjà vus. Et on les retrouve ici, arrestation, mort en perspective. Et avec ces éléments en tête, le fait que Jésus soit librement en train de parler, ça interpelle les gens qui le voient là, au milieu du temple, en train d'enseigner. Au verset 25, « N'est-ce pas celui qu'il cherche à tuer ? Le voici qui parle ouvertement et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient compris qu'il est le Christ ?» Là, en pleine fête des tabernacles, alors que nombre de gens sont venus pour la fête, à Jérusalem, le centre de la vie religieuse, le temple, est-ce qu'on a manqué un épisode? Est-ce que tout à coup, les responsables auraient accepté son enseignement et maintenant, il est protégé, il est gardé? Et dans cette première question, on pourrait avoir le sentiment qu'ils sont prêts à l'entendre, prêts à l'écouter. Mais c'est là qu'on découvre le premier présupposé, au verset 27. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Le Christ, quand il vient, personne ne sait d'où il est. Pourquoi cette remarque? Pourquoi ce présupposé? Ce n'est pas qu'ils n'avaient jamais lu le prophète Michée. Ils avaient certainement connaissance du fait que le Messie devait naître dans la ville de Bethléem, la ville de David. C'est plutôt une conviction qui n'est pas dans les Écritures, mais qu'ils avaient à cette époque, on en trouve les traces dans certains écrits. Pour bon nombre de Juifs, le Messie allait venir de manière inattendue, spectaculaire, à un moment donné. Personne ne l'ayant reconnu auparavant. Mais là, on a affaire à quelqu'un qu'on a déjà vu, on a déjà entendu. Et Jésus vient de Nazareth, de la Galilée, tout le monde sait qu'il a été engagé dans un ministère depuis un temps déjà. Mais est-ce qu'ils savent vraiment d'où il vient? Comment Jésus réagit au murmure de la foule? Alors qu'il enseigne, il s'écria, « Vous me connaissez? Vous savez d'où je suis? » Pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu. S'ils savent effectivement qu'il a vécu à Nazareth, ils ont cet élément-là, il y a quelque chose de fondamental qu'ils ignorent, qu'il manque, quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas de moi-même que je suis venu. Autrement dit, Jésus n'est pas un Messie autoproclamé qui s'est mis en avant lui-même. Son origine, elle est bien plus fondée, plus ancrée. Celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous, vous ne le connaissez pas? Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. De qui parle-t-il? Celui qui m'a envoyé, cette expression, on la retrouve assez souvent chez Jean et dans la bouche de Jésus. Et il s'agit en fait de son Père qui l'a envoyé. Les auditeurs pensent savoir d'où Jésus vient, ils ne savent pas vraiment. Et le Père, ils ne le connaissent pas. Preuve en est, ils ne le reconnaissent pas. Lui, le Fils. Alors comment reconnaître le Père? Vous imaginez pour les auditeurs de l'époque, les habitants de Jérusalem qui sont là à la célébration des tabernacles qui sont là, cœur de la vie spirituelle juive. Et vous ne connaissez pas Dieu, d'entendre ses paroles. Mais Jésus est affirmatif, ici et ailleurs. Ne pas reconnaître le Fils, ce n'est pas reconnaître le Père. Et nous, est-ce que nous l'avons reconnu? Est-ce que vous l'avez reconnu? En 2010, Frédéric Lenoir a sorti un livre qu'il a intitulé « Comment Jésus est devenu Dieu ?» Et la présentation de l'auteur est assez explicite quant à sa perspective. On a lu la question tout à l'heure. « Pour vous, qui suis-je ?» Cette interrogation de Jésus à ses disciples n'a rien perdu de sa force. Les évangiles laissent planer un doute sur l'identité de cet homme hors du commun. Est-il un prophète, le Messie attendu par les Juifs, le Fils de Dieu ? De nos jours, le christianisme est pourtant la seule religion qui affirme que son fondateur est à la fois homme et Dieu. Et la suite, comment les chrétiens des premiers siècles ont-ils progressivement été amenés à affirmer la divinité de Jésus alors que lui-même ne s'est jamais identifié à Dieu ? Il ne s'est jamais identifié à Dieu. Que dire de ces paroles qu'on vient d'entendre ? Et dans un premier temps, vous aurez peut-être envie de dire, mais Jésus parle de manière métaphorique. Dieu est son Père et il est en quelque sorte son Fils, son représentant. Mais c'est une image, simplement une image pour décrire l'importance de son message, sa vocation. Mais est-ce que ça colle, ça, avec le contexte du livre ? Est-ce que ça colle avec les commentaires de Jean ? Est-ce que ça colle avec la réaction des auditeurs ? Prenez un seul exemple, au chapitre 5, verset 18, pour ceux qui étaient là quand on avait étudié ce passage. « Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Difficile d'être plus explicite quant à l'identité de Jésus en l'appelant son Père. Il se fait l'égal de Dieu. Et quelle est la réaction ici ? Ben, ça ne change pas, il cherche à l'arrêter. Mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Les responsables veulent l'interpeller. Au verset 32, on va voir qu'ils vont se donner les moyens. Ils envoient la garde du temple, ceux qui étaient chargés de la sécurité dans le temple. Et l'expression pour dire que l'arrestation n'a pas eu lieu, au verset 30, c'est que son heure n'était pas venue. Matthieu l'a mentionné dimanche dernier, quand il s'agit de l'heure, dans l'évangile de Jean, c'est une référence à l'heure de la croix, la mort de Jésus à la croix. Et une réaction, donc, c'est de vouloir le faire arrêter, comme on l'a dit, parce qu'il affirme des choses au sujet de ses origines. Et le constat, ce n'est pas que manque de peau, ils arrivent trop tard. Ils l'ont manqué cette fois-ci, ils l'auront une autre fois. Mais c'est plutôt que Jésus est souverain sur cette heure. Là encore, implicitement, c'est sa divinité qui est mise en avant. Son heure n'est pas encore venue. Et dans sa souveraineté, il échappe à leur arrestation, à l'arrestation. Comme réaction, il y a celle des responsables religieux qui veulent le museler, le faire arrêter. Mais Jean mentionne une autre réaction, verset 31. Parmi la foule, beaucoup mirent leur foi en lui. Ils disaient, le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a produit ? Ils mettent leur foi en lui. Mais dans le même temps, on remarque qu'il y a encore un questionnement, un doute. Est-ce que si le Messie vient, il y aura plus de signes encore que celui-ci. Est-ce que nous avons vraiment reconnu d'où il vient ? Pour l'époque, les présupposés, c'était que le Messie allait arriver de manière inattendue. S'il allait naître dans la ville de Bethléem, il allait arriver de manière spectaculaire. Il y aurait quantité de miracles pour attester qu'il est bien le Messie. Quels seraient vos présupposés par rapport à Jésus ? Quels sont vos présupposés? Un homme qui enseigne l'amour, le respect, ne peut pas affirmer qu'il est Dieu. C'est beaucoup trop arrogant comme prétention. Ou alors, un présupposé qui rejoint le leur, si Jésus est bel et bien celui qu'il affirme être, alors pourquoi on ne le voit pas davantage sur le front de la question de la souffrance, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas plus dans le monde? Il n'a pas fait plus? On n'a pas le temps de répondre dans le détail à ces présupposés, mais en les croisant, on peut faire une remarque. C'est précisément parce qu'il est pleinement homme, pleinement Dieu, qu'il va pouvoir venir au cœur de la souffrance pour en découdre avec le mal. C'est précisément parce qu'il est pleinement homme, pleinement Dieu, qu'il va être le parfait médiateur. Et c'est précisément parce qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu qu'on peut avoir confiance en lui et se tourner vers lui dans l'heure de la souffrance, sachant qu'il est déterminé à accomplir son plan de rédemption. Il a promis la rédemption du monde dans lequel nous vivons et il va bien débarrasser le monde de toute injustice, de toute souffrance. Une application pour ceux d'entre nous qui sommes chrétiens. Jean, en écrivant ce témoignage, a dû être certainement encouragé, alors que lui a dû subir des persécutions, et les croyants à son époque aussi. Il devait être encouragé de voir que Jésus lui-même a vécu cette opposition, ou alors cette indifférence, cette incompréhension, ces réactions hostiles, tout cela il l'a déjà vécu. Et si moi je suis disciple de Jésus, est-ce que je devrais être surpris de vivre ce genre de réaction? Est-ce que je devrais être surpris de l'indifférence ou même de l'hostilité quand je parle de Jésus? On passe à la deuxième question, est-ce qu'on sait vraiment où il va? Il s'agit ici d'un tableau de Paul Gauguin. Paul Gauguin a dit de ce tableau qu'il était en quelque sorte son testament. Il a été peint en 1897-1898 à Tahiti. Il se trouve maintenant dans un musée à Boston. Et si Gauguin est parti pour Tahiti, c'est parce qu'il espérait trouver là une société plus fondamentale, une vie plus simple, plus modeste, échapper à une réalité à l'inverse, trop superficielle, trop compliquée. Et les voyages, vous l'avez certainement expérimenté, un temps à l'étranger, le fait de démarrer une nouvelle vie ailleurs, est-ce que ce n'est pas une bonne façon de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à l'existence, par rapport à la vie, de découvrir une autre réalité et finalement d'avoir une bouffée d'oxygène? Et c'est vrai dans une certaine mesure. On va revenir sur le tableau plus tard. Mais c'est intéressant de poser la question de la destination de Jésus, parce que lui-même soulève le sujet au verset 33-34. Il affirme « Je suis encore avec vous pour un peu de temps et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Là où moi je suis, vous ne pouvez pas venir. » Qu'est-ce qu'il veut dire par « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pourrez pas venir. » Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Est-ce qu'il est justement en train de parler d'un échappatoire, d'un endroit, d'un exil à l'étranger, d'un endroit où il sera en sécurité et tranquille? Commençons par écouter comment les premiers auditeurs l'ont compris. Verset 35-36, les Juifs se dirent entre eux, « Où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il se rendre chez ceux qui sont dispersés parmi les Grecs et instruire les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Là où moi, je suis, vous ne pouvez pas venir. » Avec la tension qui règne là, entre Jésus et ses deux auditeurs, est-ce que Jésus est tout simplement en train de dire « J'irai trouver un autre auditoire qui sera prêt à m'écouter et je serai tranquille là-bas » La diaspora et même au-delà, les non-juifs. Est-ce qu'on sait vraiment où il va? Si Jésus commence à parler de là où il va, c'est certainement parce qu'il y a effectivement la menace d'une arrestation, la menace de la mort qui plane. Son heure est en vue, oui, l'heure de la croix est en vue. Mais il y a certainement un désir de les amener à voir plus loin. Et certainement, sur le moment, ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas vu. Et il y a de l'ironie dans ce qui se passe quand on y réfléchit. C'est là, à Jérusalem, ces habitants-là de Jérusalem qui vont être de ceux qui vont crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Finalement, c'est eux-mêmes qui vont l'amener vers cette heure-là par leur responsabilité engagée. Il y a de l'ironie aussi dans le fait qu'au chapitre 12, alors que Jésus vient d'entrer à Jérusalem pour la dernière fois avant la croix, des Grecs veulent le voir. Les disciples lui font part de la nouvelle. Et comment est-ce qu'il répond? Jésus lui répond, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » L'heure de la croix est arrivée, mais en mourant, il va produire un fruit abondant dont le monde entier va bénéficier, les Grecs, entre autres. Il le dit ici, il le redira par la suite. Au-delà de cette heure, il va retourner vers celui qui l'a envoyé, vers le Père. Et là, du coup, on trouve la réponse à nos deux questions, comme un parallèle. D'où est-ce qu'il vient? De celui qui l'a envoyé, du Père. Où est-ce qu'il va? Vers celui qui l'a envoyé, vers le Père. Et on peut se dire que si nous, on avait été là, comme ses auditeurs, comme les disciples vont l'être par la suite, dans les chapitres suivants, on serait déstabilisés. Quoi est-ce qu'il parle? Où est-ce qu'il va? C'est mystérieux. Et pourtant, quand on y réfléchit, ça doit être source de stabilité. Imaginez que vous soyez parmi les disciples qui entendent parler de Jésus, de son départ, de cette séparation. Où est-ce qu'il va aller? Et au moment de la croix, au moment du jugement, est-ce que les choses sont parties en vrille et Jésus est victime d'un complot simplement? Jésus va leur dire à eux, chapitre 14, versets 27-28, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » C'est ça qu'il veut pour eux. Je vous donne ma paix. Une paix qui demeure. Pour ceux qui vont croire, c'est un gage de stabilité de savoir que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu du Père et qu'il retourne vers le Père. S'il est bien passé par cette heure sombre de la croix, il retourne vers le Père. Et pour ceux qui n'ont pas cette foi en Jésus, pour ceux qui doutent, comment est-ce qu'on doit réagir à ce que Jésus affirme ici? Dans le passage, en tout cas, on peut dire qu'à ceux qui s'obstinent, à ceux qui refusent d'écouter Jésus, de croire en lui, il leur dit quelque chose d'assez fort. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Il y a comme une interpellation. Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Et ça doit nous interpeller si nous sommes dans la position de ces personnes qui ne croient pas en lui, qui ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est divin, en même temps qu'homme. Mais peut-être de manière plus sur le plan de l'expérience, du vécu. Chacun d'entre nous, quand on passe par la souffrance, on va se poser certaines questions. Et c'est là qu'on en revient à Gauguin. Il était parti pour trouver cette vie plus simple. Et dans un premier temps, c'est ce qu'il va expérimenter. Mais il y aura ensuite la désillusion. La mort de sa fille, Aline, ses problèmes de santé, une blessure à la jambe qui ne guérit pas, une crise de syphilis. Il déprime au point de se jurer qu'à la fin de ce tableau, il va se suicider. Et il a déjà fait des tentatives de suicide. Et le malaise qu'il vit se reflète dans le tableau avec les questions qu'il pose. D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? D'ailleurs, qu'on trouve dans l'inscription en haut à gauche. Et ce tableau, il voulait qu'on le lise de droite à gauche, avec des femmes, avec un enfant qui reflète le début de la vie, des jeunes adultes au centre, et ensuite une vieille femme approchant de la mort. Un étrange oiseau blanc représente la futilité des mots face à la mort, justement. Et l'idole bleue, en arrière-plan, représente l'au-delà. Et si ce tableau reflète les questions existentielles qu'on se pose dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance, on peut légitimement se demander comment les réponses vont nous être données. Où est-ce qu'on va trouver ces réponses à des questions comme d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ? Des questions qui sont justes, qui sont bonnes, qu'il faut se poser. Est-ce que la vie est simplement un accident et simplement quelque chose auquel vous, vous devriez donner du sens alors qu'elle n'en a pas ? Est-ce que c'est simplement à chacun de construire sa propre trajectoire, son identité ? L'évangile de Jean, dans son ensemble, nous invite à voir un plan large, beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Il commence avec « Au commencement était la parole, le Fils qui a donné naissance à la création ». Et il se termine avec le Christ ressuscité qui s'entretient avec les disciples, qui nous donne une fenêtre sur l'éternité. Jésus nous invite par les paroles qu'il a prononcées en nous disant d'où il vient, où il va, à ouvrir notre horizon et à trouver une plus grande stabilité dans sa trajectoire. Il est venu du Père. Il est celui qui nous a donné la vie comme un cadeau pour laquelle on peut être profondément reconnaissant. Il est celui qui a vécu cette heure sombre pour nous assurer qu'il est déterminé à en découdre avec le mal, notre mal et le mal dans le monde. Et il est celui qui est retourné vers le Père et qui promet la vie éternelle à tous ceux qui auront foi en lui. Il est gage de stabilité pour ceux qui croient en lui. Je vous invite à la prière. Père, nous te prions que tu nous accordes à chacun la grâce de voir en Jésus qui il est vraiment et de trouver une profonde stabilité, une assurance dans tout ce que nous aurons à vivre ces prochains jours. Il est venu du Père. Il a vécu cette heure sombre pour nous et il est auprès du Père, intercédant en notre faveur. Accorde-nous la grâce d'être encouragé, fortifié par ses promesses, par cette parole. Au nom de Jésus. Amen.